Bienvenue sur le cours de l'F6KGL. Bonsoir à tous. Nous sommes 23 ce soir, pour commencer, sûrement d'autres vont arriver. Et ce soir, nous allons voir donc le chapitre 2, la deuxième partie du chapitre 2. Et on va aborder maintenant deux nouveaux composants après la résistance. On va voir deux composants particuliers qui sont donc les bobines et les condensateurs. On va voir ce soir la bobine et le condensateur parfait, qui n'existe pas dans la vraie vie, évidemment. Et on verra la semaine prochaine ce qu'il se passe quand on a des vrais condensateurs, des vraies bobines, et les problèmes liés à la non-perfection de ces composants. Donc, on a vu déjà les semaines précédentes la résistance. On l'a vu en présence de courants continus et la semaine dernière en présence de courants alternatifs. Et voilà, on va voir maintenant deux autres composants qui ont des comportements particuliers uniquement en courant alternatif. Une bobine et un condensateur, ça ne fonctionne pas en courant continu. Tout au moins, ça, c'est des fonctions particulières, mais qui, voilà, on va les utiliser surtout en présence de courants alternatifs, parce que c'est là où ils ont leurs caractéristiques particulières. Et donc, dans toutes les formules qu'on va voir, et dans les formules simplifiées, plus précisément, que je ne vous conseille pas d'utiliser, je vais vous recommander à chaque fois d'utiliser la vraie formule. Pourquoi ? C'est que, d'une part, sur une calculette, bah, ça va aussi vite d'écrire la formule simplifiée que d'écrire la formule normale. Le problème, c'est que la formule simplifiée, souvent, elle a des multiples et des sous-multiples particuliers qu'il faut absolument respecter, et que si vous n'avez pas ces multiples et des sous-multiples dans la question d'examen, eh bien évidemment votre formule simplifiée, ça commence mal, déjà il va falloir que vous transformiez les valeurs qui vous sont proposées dans les multiples et sous-multiples utilisés pour cette formule simplifiée. Donc voilà. Alors ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec les mathématiques et les calculettes, pourquoi pas utiliser la formule simplifiée, mais je ne vous le recommande pas. Voilà, et donc dans toutes ces formules simplifiées, on va voir beaucoup un facteur qui est donc le facteur 159 ou 160, voilà, parce que c'est quasiment à côté, et 159, ça correspond à une approximation de 1000 divisé par 2 fois pi, parce qu'on va voir 2 fois pi, ça on va l'avoir tout le temps. Hein, c'est ma fameuse pulsation dont on parlait la semaine dernière. Donc l'inverse de la pulsation, donc c'est 1000 divisé par 2 fois pi, ça fait donc 159 quelque chose. Et si on veut arrondir, on va utiliser soit 160 ou 0,16, parce que dans les questions d'examen, on peut aussi avoir dans la question, on indique en retenant 1 sur 2 pi est égal à 0,16. Donc, si on a indiqué ça, c'est que le facteur, on n'utilise pas du coup 159 mais 160. Et surtout, ça veut dire que systématiquement, toutes les questions, enfin tout au moins les résultats, vont être arrondis. On l'avait déjà vu ça quand on avait fait la transformation de tension maximum en tension efficace ou inversement, où on prenait toujours, enfin la valeur était toujours arrondie. Alors, c'est pas que je vous encombre, attendez, Cyril qui me dit pourquoi tu nous encombres le cerveau avec les simplifiés si tu ne les conseilles pas. J'ai pas dit que j'encombrais votre cerveau, j'ai dit que selon votre niveau, eh bien, vous pouvez utiliser ou pas. Après, c'est à vous de connaître votre niveau, et parce que je ne le connais pas, moi, malheureusement. On est à distance là, et donc c'est à vous à savoir avec quel outil vous voulez travailler. Je vous donne juste, c'est à vous de voir quel est le meilleur pour vous. Voilà. Et encore une fois, à l'examen, la calculette est autorisée, et ce sont des calculettes simples, c'est-à-dire non programmables. Alors maintenant, c'est un peu difficile de trouver des calculettes non programmables, mais l'idéal, c'est les calculettes du style 6e, voilà, la FX 92 collège, mais collège 6e, puisqu'il y a plusieurs styles de FX 92, donc la collège 6e, et ça correspond exactement à ce qui est nécessaire pour passer l'examen. Alors effectivement, la calculette est autorisée, mais elle doit être passée en mode examen, donc finalement la mémoire vidée. Le condensateur et la bobine, elles ont évidemment leurs propres caractéristiques, qu'on va voir juste après, et on va voir surtout qu'ils ont des comportements qui sont à la fois opposés et complémentaires. Alors c'est quand même quelque chose de particulier, parce qu'on va voir que ce sont deux composants qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant on va voir que toute leur formule, ce que l'on applique à la bobine, on va pouvoir l'appliquer avec une petite transformation au condensateur. Ce qui veut dire que bobine et condensateur, ils sont finalement complémentaires. Parce que même si c'est opposé, on va voir quand on fera l'association bobine et condensateur, comme ici par exemple, là, eh bien on va voir que dans ce cas-là, ces deux composants, eh bien, ils s'associent parfaitement. Je vais vous d'abord commencer par vous présenter ces deux composants. Présenter d'abord les composants que j'ai moi sur mon PDF avant de vous présenter ceux qu'il y a à la webcam. Alors les premiers qui sont là, ce sont des images là que je vais. Ce sont les composants que je vais vous présenter juste après, donc on va passer. Là, vous en avez quelques-uns ici, notamment une bobine là, qui est montée. On a l'impression que c'est monté sur une résistance. Eh ben non. Elle est montée sur un support comme une résistance, mais c'est pas une résistance. Et ça, c'est une bobine. Alors là, j'ai zoomé un peu trop fort. Vous m'en excuserez, parce que du coup, c'est assez moche. Voilà d'autres. Ici, on a des condensateurs. Ici, on a des condensateurs ajustables. Comme on avait des résistances ajustables, on a des condensateurs ajustables. Ici, alors ça c'est très intéressant, et on va s'arrêter là-dessus. Ici, ce sont... Alors, cette ligne-là, ça c'est une bobine. Alors c'est une bobine très particulière, parce que c'est un fil qui est non bobiné. Donc, alors c'est une inductance, mais pas une bobine, mais ça va avoir le même effet qu'une bobine. Et ça va être utilisé dans les très hautes fréquences. Puisque plus on monte en fréquence, plus la bobine va réagir. Et quand on monte très haut en fréquence, en fait, un simple fil rectiligne comme ça va avoir le même effet qu'une bobine avec spire. Et ici, donc, on a le petit condensateur, ici, ajustable, qui permet d'ajuster la fréquence de résonance de la ligne. Hein, donc ici... Ici, même chose, et ici, une ligne un peu plus grande. Voilà. Et donc, ça, ce sont des bobines aussi. Autre type de bobine qu'on va trouver sur des circuits imprimés, la bobine va directement être imprimée sur le circuit imprimé, et donc, elle ne va pas être en longueur, elle va être finalement à plat. La bobine, elle est à plat de cette manière-là. Donc ici, on a deux bobines. Et ici, les condensateurs variables, qui permettent d'ajuster la fréquence de résonance du circuit. Voilà. Donc je vais passer maintenant sur la webcam. Je reviens là. Hop. Je passe sur la webcam et je vous montre les composants. Alors, premièrement, je vais vous montrer les condensateurs et puis après les bobines. Alors, les condensateurs, on fait bouger ça. Donc voilà, des petits condensateurs, je vais prendre un stylo, parce qu'avec mes gros doigts, on ne voit plus rien. Donc ça, c'est un petit chimique qui est là. Ici, ça, c'est une petite bobine. On voit ici, c'est bobiné. Et ici, une deuxième petite bobine. Ici. Donc ça, ce sont un condensateur et deux bobines. Ici, vous avez tous des condensateurs différents. Donc ici, alors ça c'est un vieux condensateur chimique qu'on trouvait dans les postes à lampes. Cette belle chose. Voilà, 150 picots, 4000 volts quand même. Pour pas mettre ses doigts dessus. Ici un condensateur chimique. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Et donc celui-là, il fait combien? Il est marqué dessus. Voilà, 1000 micros, donc 1 millifarad et 50-60 volts, donc on va se limiter à 50 volts. Je ne sais pas si on voit, mais ici, il y a un signe plus, là. Donc les électrochimiques, ils ont la particularité d'être polarisés, et donc il faut faire attention à la polarisation, bien positionner le plus, enfin la tension positive d'un côté, sur le côté isolé, en fait, on voit bien ici, c'est isolé. Alors que la partie à la masse, ici, c'est l'intégralité ici du condensateur, de l'extérieur du condensateur qui est relié à la masse. Et effectivement, oui, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les petites bobines à place, c'est exactement ce que l'on trouve dans les antivols vêtements. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que quand vous passez devant le portique, la fréquence de résonance fait résonner le système d'alarme qui vous trouve que vous n'avez pas payé votre article, parce que cet antivol, finalement, qu'est-ce que fait la caissière quand elle désactive? C'est qu'en fait, elle perce le système fait que le condensateur est percé. Et donc le système n'a plus de résonance. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Autre condensateur ici, des petits céramiques comme ceux-là. Voilà. Vous remarquez quand même qu'ils ont un code couleur. Et c'est le même code couleur que pour les résistances. La différence, c'est que ça se lit du haut vers le bas. Hein, donc du haut vers les pattes. Et chaque couleur... le rouge correspond à 2, alors après, les valeurs, elles sont dans les résistances, la référence c'est l'ohm, alors que là, dans le condensateur, la référence c'est le picofarad. Voilà, mais ça se lit exactement de la même couleur, sauf qu'il y a un peu plus. Alors là, on ne le voit pas parce qu'en fait, il y a deux rouges, là. Il y a cinq couleurs différentes, et évidemment il y a deux, pour ce condensateur là, il y a deux rouges, donc ça commence par 2-2 finalement, et après on a un jaune, un blanc et un rouge. Alors le jaune, donc c'est ne mangez rien ou je vous, donc c'est le 5, donc ça fait 22 et 5-0 derrière. Donc ça fait 2 micros, 2. Voilà, 2 microfarads, 2,2 microfarads. Et après, le blanc et le rouge vont donner, de mémoire, il doit y avoir la tension et je ne sais plus quoi encore. Enfin voilà, mais ça va fonctionner exactement comme les résistances. Et puis après, vous avez d'autres petits condensateurs là. Et là, on ne s'est pas embêté sur celui-là. Ouais, alors ça, c'est très mal écrit, même moi, j'y arrive pas. C'est écrit en un blanc un peu délavé. J'arrive à voir 2%, c'est tout ce que j'arrive à voir. Je n'ai pas pris mes bonnes lunettes, alors ça va pour aller. Et effectivement, le code couleur, c'est le même. On peut retrouver... alors, en revanche, à l'examen, il n'y a pas de question sur le code couleur des condensateurs. Hein. Toutes les questions portent sur les codes couleurs des résistances. Donc ça, c'est les condensateurs classiques, hein, je dirais. Un petit chimique ici aussi, hein, pour vous donner une taille. Alors évidemment, plus c'est petit, plus la valeur du condensateur est petite, et plus sa tension aussi est petite. Voilà, 220 nano, 400 volts. Ah ben voilà, voilà. Quelqu'un qui connaît bien les choses, apparemment. Qu'est-ce que j'ai encore? Des condensateurs, alors, ici, des condensateurs variables. Alors, c'est des condensateurs à air, c'est-à-dire que là, partout ici, on va avoir un isolant bien particulier, que ce soit dans les chimiques, ici, dans ces condensateurs céramiques, on va avoir un isolant particulier. En revanche, dans les condensateurs, comme ici, condensateurs variables, ici, ici, tout ça, ce sont des condensateurs variables, que je vais redescendre un petit peu, pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Donc, condensateur variable. Là, mon isolant, c'est l'air. Et évidemment, les lames que je vais ici, est-ce que je vais y arriver tout à l'heure? J'ai réussi, voilà. Alors, il est un peu grippé, je pense que celui-là, il est mort, parce que les lames, elles se touchent. Donc, à partir du moment où les lames se touchent, l'effet condensateur ne se fait plus. Hein. On va voir tout à l'heure ce que c'est que l'effet condensateur. Et donc là, si je peux ressortir les lames, et si ça veut dire que les surfaces en vis-à-vis vont être moindres. Hein. Et vous remarquez ici, c'est ce qu'on appelle un double cage, c'est-à-dire que mécaniquement, on va faire varier deux condensateurs de même valeur en même temps. Et ça va nous servir dans certains montages où on va être obligé de faire varier deux circuits oscillants ou deux filtres en même temps. Alors, effectivement, ça ressemble à des radiateurs. C'est tout métallique, hein, et il n'y a que des parties. Il n'y a qu'une petite partie ici qu'on voit peut-être assez mal, ici, en porcelaine, qui permet de faire l'isolant, finalement. Là, on le voit mieux, la porcelaine, là, elle est ici. Elle est ici, la porcelaine. Mais j'ai bien deux systèmes, un système ici en dessous, et celui-là au-dessus, qui est aussi très grippé, plus que grippé, donc voilà, c'est mort, ça aussi, qui permet ici d'ajuster la valeur. Même chose ici. Et celui-là, il est couplé. Alors je vais pousser un peu tout ça pour vous montrer les bobines maintenant. Ce condensateur-là, évidemment, il est couplé à une bobine. Ça, c'est typiquement un circuit oscillant. Et ici, j'ai différentes bobines. Donc ça, une bobine. Ce sont, vous voyez, soit des bobines à air, ce qu'on appelle des bobines à air. Donc il n'y a que de l'air à l'intérieur. Ou alors, celle-là aussi, c'est une bobine à air dont je vais me servir tout à l'heure pour faire la présentation. Ou alors, on a aussi des bobines avec à l'intérieur de la ferrite, dont on va parler tout à l'heure. Et ça fait partie aussi de mon matériel que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on va faire un peu d'expérience dessus. Et ça, c'est aussi une autre sorte de bobine. C'est une bobine ce qu'on appelle torique. Pourquoi? Parce que à l'intérieur des bobinages, là, il y a un tore en ferrite, généralement. Et donc, c'est une bobine qui a une forme un peu particulière, une forme de tore. Voilà, je reviens sur mon PDF. Voilà. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Hein. Commencez pas, on va voir. On a toute la soirée pour le faire. Donc là, je vous ai présenté les composants. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Alors, hop. On va commencer par le condensateur. Le condensateur, ce sont... Alors, l'origine du phénomène, c'est quoi? C'est un effet électrostatique. C'est quoi un effet électrostatique? C'est typiquement, ça vous l'avez sûrement connu, sûrement, c'est même pas certain, quand vous, comment dire, quand vous frottez les pieds sur le paillasson, quelquefois, vous, ça, et que vous touchez après un objet métallique, vous sentez une petite décharge dans les doigts. Ça, c'est l'effet électrostatique, c'est que le fait d'avoir frotté votre pied sur le paillasson, ça vous a retiré des électrons, ou ça en a retiré du paillasson, et c'est vous qui les avez récupérés, enfin en tout cas, ça vous génère une différence de potentiel dans votre corps, et le fait de toucher une partie métallique, ça va rétablir le potentiel, et évidemment, ce que vous touchez, ça, il va y avoir... Enfin, l'endroit où vous touchez, il y a un petit peu de courant qui va passer, c'est ça qui va vous donner ce picotement. Le condensateur va fonctionner un petit peu de la même manière, dans le sens où on va avoir deux plaques métalliques qui vont être en vis-à-vis, et dans ces plaques métalliques, si j'envoie des électrons, alors plus exactement, si j'envoie du courant, si j'envoie du courant dans la plaque ici, automatiquement mes électrons, mais ça on le verra après, ça fait fuir les électrons, et ça donne ici des tensions positives, et ces tensions positives vont générer de l'autre côté du condensateur une tension négative. C'est-à-dire que le fait ici d'avoir des charges positives va faire fuir les charges positives de l'autre côté, et donc vont apparaître automatiquement des charges négatives. Concrètement, ça veut dire quoi? Si j'ai des charges positives ici, j'ai du courant qui arrive, et si j'ai des charges négatives ici, c'est que le courant sort de mon condensateur. Voilà, et donc ça c'est l'effet électrostatique. Et donc le condensateur, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a deux plaques métalliques conductrices séparées, alors séparées par de l'air ou autre chose, quelque chose qui va s'appeler un diélectrique. Alors ça, diélectrique, vous allez en entendre parler tout le temps maintenant. Diélectrique égale isolant. Il faut se foutre ça dans la tête. Évidemment, selon l'isolant qu'on prend, ça ne va pas donner la même chose. L'isolant de base, c'est l'air. Plus exactement, c'est le vide. Mais l'air a les mêmes caractéristiques à quelque chose près, mais c'est infinitésimal, à quelque chose près. Alors, c'est l'air sec, si vous voulez préciser. Air sec, il a les mêmes caractéristiques que le vide. Si c'est de l'air... classique, ambiant, ça va. Si c'est de l'air avec de la vapeur d'eau dedans, ça va plus. Hein, typiquement, si vous mettez un condensateur dans un nuage, il ne va pas avoir la même valeur que s'il est au soleil, à l'air sec. Voilà. Et donc, ce qui va changer finalement dans la valeur du condensateur, c'est quoi? C'est la surface des plaques qui sont en vis-à-vis. Évidemment, plus il y a de surface en vis-à-vis, plus la valeur du condensateur est importante. Et deuxième caractéristique, c'est l'espacement ici entre les plaques. Parce qu'évidemment, plus les plaques sont rapprochées, plus l'effet électrostatique va être important, et donc plus la valeur du condensateur va être importante. Ici, je vous ai mis les schémas des différents... condensateur, donc condensateur classique, hein, on a nos deux plaques qui sont vis-à-vis, séparées par du vide. Donc ça, c'est typiquement le schéma du condensateur lambda, non polarisé. Ici, on a les condensateurs polarisés, donc avec deux grandes représentations. Alors, c'est plutôt celle-ci qui est utilisée maintenant, et moins la deuxième ici. C'est plutôt celle-ci, et donc il y a bien, faut bien repérer finalement la partie qu'il faut brancher au moins et la partie qu'il faut brancher au plus. Pourquoi? C'est que ici, le diélectrique qu'on va utiliser dans les condensateurs polarisés, donc les condensateurs chimiques, c'est un bain électrolytique, donc c'est de la chimie, et cette chimie, elle est faite pour ne fonctionner qu'avec une certaine tension, que dans un sens. Si vous le branchez à l'envers, eh ben la réaction chimique se fait, continue, se fait à l'envers, et c'est ça qui génère la chaleur, parce que c'est une réaction chimique du diélectrique qu'il y a à l'intérieur. De même, si vous allez au-delà de la tension qui est indiquée sur le condensateur, encore une fois, la réaction chimique, elle va continuer. Elle va aller plus loin. Et donc, dès qu'il y a réaction chimique, il y a dégagement de chaleur et de gaz, si bien que le condensateur, il va chauffer, il va gonfler, et à la fin, il va exploser. Et il va exploser, c'est-à-dire que tout l'électrolyte chimique qu'il y a à l'intérieur du condensateur, qui est une véritable merde, va sortir du condensateur et vous en foutre plein partout. En plus, ça pue. Donc si vous voulez faire des farces, ça marche très bien, mais si vous voulez avoir une vie tranquille, c'est éviter de jouer trop avec les condensateurs chimiques. Donc ça, comme pour les résistances, on va avoir des condensateurs qui vont être ajustables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre réglage pour ajuster par exemple une fréquence et qu'on ne veut plus bouger cette fréquence, on va utiliser un condensateur ajustable, donc on l'ajuste, et puis après on n'y touche plus. Et puis sinon, on utilise aussi des condensateurs variables, et ça, c'est pour notamment faire changer la fréquence de réception d'un récepteur. Donc on va utiliser un condensateur variable. Condensateur variable, c'est typiquement les condensateurs de bloc cage que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous mettez un bouton avec un démultiplicateur, tant qu'à faire, c'est mieux. Et comme ça, ça vous permet de régler votre fréquence que vous voulez recevoir. Les unités. Alors, l'unité, c'est le farad. Le farad, pourquoi ? C'est que... Alors voilà, il y a Alain Avis qui dit que dans le condensateur chimique, il y a de l'acide borique. Mais à mon avis, pas que. Il doit y avoir d'autres saloperies dedans. Et cet acide borique, avec autre chose, je suppose, fait que c'est ce qui fait le diélectrique, en fait. Et c'est ce qui permet surtout que les valeurs du condensateur sont assez élevées. Tous les condensateurs chimiques, ce sont des fortes valeurs. Ce sont tous les condensateurs de fortes valeurs. Ils sont tous chimiques parce que on ne sait faire que ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, l'unité de mon condensateur, c'est le farad, et ça a été adopté en l'hommage de Michael Faraday, qui était donc alors qui n'a pas travaillé réellement sur les condensateurs, qui a travaillé lui sur l'induction et l'électrochimie. Quelque part, c'est lui qui est à l'origine des condensateurs chimiques. C'était un Anglais du 18e siècle, et donc tous ses travaux, c'est 1830, et vous voyez, 1830, le condensateur n'existait pas encore. Donc le condensateur, ça a été inventé dans les années 1870, par là. Mais avec la bobine, en fait. Tout le monde a inventé. Ça a commencé à être répandu à partir du moment où on a fait des circuits oscillants. Alors, pourquoi la question des codes couleurs des condensateurs ne serait-elle pas posée à l'examen ? C'est une très bonne question. Pourquoi pas ? Jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu, mais pourquoi pas ? Voilà. Enfin, ne demandez pas trop quand même de trucs tordus à la NFR, parce qu'ils risquent de vous les donner, donc... Voilà, c'est pas la peine. Donc, Voilà, alors juste le Farad, avant il y avait. Parce que le Farad, c'est assez récent quand même, hein, comme unité. Auparavant, on avait une ancienne unité, ça c'est ceux qui font de la restauration de matériel ancien. Ils vont trouver des valeurs qui sont exprimées en centimètres. Je ne sais pas ce que centimètre de quoi, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'était exprimé en centimètres, et le centimètre, c'était un tout petit peu plus qu'un picofarad. Voilà. Sachant qu'un picofarad, c'est pas grand-chose, hein, c'est un pouillème de condensateur. Hein. L'unité de base du condensateur, c'est le picofarad. Il peut y avoir des condensateurs évidemment plus petits, mais ce n'est pas dans nos applications qu'on va les trouver. Nous, ce qu'on va trouver habituellement dans nos applications, les plus petits, ça va être des 50 picofarads. Quoi. Et encore, c'est parce qu'on va être en VHF ou en UHF. Voilà. L'unité, c'est le farad. Et la grandeur du condensateur, c'est la capacité. Ça s'appelle la capacité. Et donc la capacité, la définition du condensateur, c'est quoi ? Donc la capacité, c'est D, c'est le diélectrique. Je vais commencer par le diélectrique, j'aurais pas dû. Donc c'est ce que j'utilise ici comme isolant, multiplié par la surface ici, alors en mètres carrés généralement, enfin tout au moins si on est en système international, mais on va voir, nous, dans le calcul pratique, on est en centimètres carrés, c'est quand même plus facile que le mètre carré, divisé par l'épaisseur, encore une fois en mètres, mais c'est comme c'est pas pratique, on va utiliser dans notre formule pratique le dixième de millimètre. Et donc, le diélectrique de l'air, c'est précisément 8,85 picofarad par mètre. Alors, ce 8,85, d'où ça sort? Eh bien, c'est 1 divisé par 36 pi, 10 puissance moins 9. Ne me demandez pas d'où ça sort. En tout cas, c'est quelque chose qui me va bien parce que derrière tout ce que l'on va voir avec la bobine, eh ben ça va aller en complément. Donc ça va parfaitement bien. Et donc, ce qu'il faut se souvenir, alors pas de question à l'examen, heureusement. Ça, c'est pour ça que je l'ai mis en italique. En revanche, des questions à l'examen, ça va être sur la formule générale. Hein, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, y a un condensateur... Il y a telle surface la surface des plaques, ici ça s'appelle les plaques en vis-à-vis. Et donc ces plaques en vis-à-vis, elles ont une certaine surface. Si je double la surface, quelle est la valeur du condensateur? Évidemment, le condensateur va avoir doublé. Alors, le centimètre représente la longueur de ruban isolant électrique aluminium bobiné ensemble sur un noyau isolant. Bon. Bon, ben voilà, je ne savais pas tout ça, et c'est bien de le savoir. Donc, mon calcul pratique, là, c'est 8,85, donc finalement... Ici, ce qu'on appelle ici la permittivité, donc le fait que mon air soit un isolant, et donc il y a un coefficient diélectrique, ce coefficient diélectrique de l'air, que l'on va appeler epsilon 0, c'est la permittivité de l'air ou du vide, et c'est 8,85 picofarad par mètre. Ensuite, je multiplie par la surface, je divise par la surface en centimètres carrés. Là, je divise par l'épaisseur, ici en dixième de millimètre, et ça me donne ici la valeur de mon condensateur. Et ça marche à tous les coups. On verra tout à l'heure, quand on fera nos petites expériences, que ça fonctionne pas si mal que ça. Lorsque on n'utilise pas l'air ici comme isolant, comme je vais faire moi lors de ma manip, je ne vais pas utiliser l'air comme isolant, je vais utiliser d'autres matériaux. Et bien dans ce cas-là, il va falloir utiliser un coefficient diélectrique. Et donc ce qu'on appelle aussi une permittivité relative, c'est-à-dire que c'est un coefficient qui est systématiquement supérieur à 1. Et ce coefficient diélectrique va faire en sorte que si je mets un isolant autre que l'air ici entre mes deux plaques, eh bien je vais augmenter la valeur de mon condensateur. Évidemment, si je garde la même épaisseur ici, la même distance ici entre mes deux plaques. Et oui, on parle bien des surfaces ici en vis-à-vis. Et donc, quand j'ai un condensateur variable, en fait, lorsque je sors je vais revenir sur ma webcam. Lorsque je sors ici mes plaques de mon condensateur variable, je les sors, automatiquement elles ne sont plus en vis-à-vis par rapport au socle ici qui est fixe, et donc la valeur de mon condensateur a diminué. Et quand je les rentre toutes comme ça, eh bien là toutes mes plaques sont en vis-à-vis, et donc c'est là où j'ai la valeur maximum. Et alors l'épaisseur de la plaque, on s'en fout. L'épaisseur de la plaque, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est la distance entre les deux plaques. Je reviens sur mon PDF. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Oui, j'ai aussi une problématique liée à ce qu'on appelle la rigidité diélectrique. C'est-à-dire que selon ce que l'on utilise comme isolant, eh bien il y a des isolants qui vont tolérer une certaine tension, et d'autres qui ne vont pas. Typiquement le papier c'est un très bon isolant. Le problème c'est qu'il n'aime pas des tensions trop importantes, parce que s'il y a une tension trop importante, eh bien ici la tension qu'il y a sur ce côté ici de la plaque traverse le papier, il est percé, et donc papier percé égale condensateur foutu. Donc les condensateurs papier étaient utilisés dans tous les vieux postes à lampe, et donc il y en a beaucoup qui sont morts parce que le papier au bout d'un moment ça se désagrège, et donc la valeur du condensateur elle a plus rien à voir, puisque je n'ai plus de papier, mais j'ai de l'air finalement comme isolant. Et donc la valeur n'a plus rien à voir, parce que je perds le coefficient diélectrique du papier. Et donc E, c'est vraiment la distance entre les plaques, et non pas l'épaisseur. Ou l'épaisseur du diélectrique, comme on veut. C'est pour ça qu'on appelle ça E, pour dire que c'est l'épaisseur du diélectrique. Donc le D ici, c'est le D du diélectrique, et le E, c'est le E de l'épaisseur du diélectrique. Et pas l'inverse. qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, donc les condensateurs électrochimiques, on vient d'en parler, qui sont polarisés, qui donc faut faire attention. Alors, il n'y a pas de question à l'examen là-dessus. Mais bon, voilà. Et la définition physique du condensateur, ça c'est très important. La valeur du condensateur, et ça c'est la valeur, la définition au départ, c'est ce qui a permis de définir la valeur du condensateur. Ici, ça c'est sa valeur en fonction de ses dimensions, donc c'est pour estimer la valeur du condensateur, mais la relation mathématique, typiquement issue de la loi d'Ohm, tout simplement, on va voir tout à l'heure pourquoi. Elle est ici. Donc la valeur du condensateur, c'est la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur, ici dans les plaques, d'accord, divisé par la tension. C'est-à-dire que plus votre condensateur est gros, plus il va contenir une quantité d'électricité en coulomb importante. Inversement, pour un même condensateur, il suffit de multiplier par 2 la tension à ses bornes pour voir la quantité d'électricité multipliée par 2 à l'intérieur du condensateur. Donc la deuxième formule, c'est exactement pareil. C'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai le Q qui était, enfin tout au moins le U qui était en dessous du trait de fraction, je l'ai remonté au-dessus, et si bien que la quantité d'électricité dans le condensateur, c'est égal à la valeur du condensateur multipliée par la tension aux bornes du condensateur. D'accord ? Donc ça, c'est la formule de base. Et enfin, il y a donc les deux premières, c'est les mêmes finalement. La deuxième formule, là, c'est... alors, donc, on rappelle que Q égale à I multiplié par T. Et donc, on traduit ça. En fait, c'est la même formule, là, qui va donner ici la quantité d'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc c'est égal à 1/2 de la valeur la Q, donc la valeur de la, enfin la quantité d'électricité dans le condensateur multipliée par sa tension. Voilà. Donc on a vu ici toutes les formules. Donc le code de couleur, là je vous l'ai mis là, si ça vous intéresse, donc ça se lit donc du haut vers le bas. Enfin, il y a toujours ça. Alors, dans les résistances, la plupart du temps, il y a 3 ou 4 couleurs. Dans les condensateurs, il y a systématiquement 5 couleurs. Hein, on a donc les deux premiers, c'est les deux premiers chiffres. Troisième bague, c'est le multiplicateur, donc le nombre de zéros. Quatrième bague, c'est la tolérance. Donc blanc 10%, noir 20%. La plupart du temps, c'est des blancs qu'on a. Et la dernière, enfin, c'est pas une bague d'ailleurs, c'est un trait. Et le dernier trait, c'est la tension. Et donc en fait, on a soit le jaune ou le rouge. Donc le rouge, c'est 250 et le jaune, c'est 400. Voilà, alors certains films plastiques sont auto-cicatrisants. Lors d'un claquage par l'arc électrique de surtension, la fusion du film ramollit le trou, bouche le trou lors du refroidissement du plastique. Alors ça, c'est vraiment des composants, je pense, assez plus professionnels que d'autres et qui doivent être assez récents. Mais en tout cas, dans les vieux composants, c'était un des problèmes, notamment avec les condensateurs papier qui étaient crevés quand il y avait trop de tension aux bornes du condensateur. Il y a de moins en moins ce genre de soucis, hein, je vous rassure, mais sachez que ça existe. Et d'ailleurs, sur les condensateurs à air, on voit de temps en temps des arcs, quand on met une tension très importante, hein, on peut voir des arcs ici entre les plaques, puisque on a bien vu là dans mon condensateur variable, l'espace que j'ai entre mes deux plaques, là c'est du dixième de millimètre. Évidemment, plus on met des tensions importantes, plus il faut avoir un espacement entre les plaques qui est important. Mais du coup, ça augmente le volume du condensateur, parce que plus on écarte les plaques, plus la valeur du condensateur est petite. Et donc si on veut avoir un condensateur d'assez grosse valeur avec un espacement important, donc qui supporte une tension de claquage importante, et bien automatiquement on va avoir un condensateur qui est plus gros. Voilà. Donc ça, c'est mon condensateur. voilà la bobine maintenant. Voilà la copine, la bobine. Alors, Richard dit que ces films plastiques sont utilisés dans les alimsecteurs. Bien. Donc, la bobine. La bobine, c'est quoi ? Ben, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. C'est une bobine. Et donc, dans la bobine, on a... Alors là, l'origine du phénomène, c'est un phénomène électromagnétique. Puisque dans la bobine, on a un champ magnétique qui est coincé finalement dans la bobine. Alors, plus ou moins coincé. Par exemple, ici, on a des bobines des spires, ce qu'on appelle des spires, qui ne sont pas jointives, donc elles ne sont pas collées l'une aux autres. Si bien que on peut imaginer que le champ magnétique peut s'échapper. Et donc, il va faire un petit tour, il fait un petit tour sans passer par l'intégralité ici de la bobine. Alors que dans la bobine qui est ici, donc avec des spires qui sont jointives, mon champ magnétique, il est coincé et il est obligé de faire tout le tour. Si bien que pour une bobine comme ça, spire non jointive, on va avoir une valeur plus faible, puisque mon champ magnétique peut, s'il le souhaite, couper court. Et donc, j'ai une partie du champ magnétique qui ne passe pas à l'intérieur de l'intégralité de la bobine. Voilà comment ça fonctionne. On va le voir tout à l'heure quand on va faire nos petites expériences. J'ai fait une bobine toute simple et on va espacer les spires et on va voir ce qui se passe. Alors ça ne change pas énormément, mais ça a une incidence sur la valeur de la bobine. Une bobine, c'est toujours... Alors, auparavant, c'était représenté comme une bobine. C'était comme ça. Et de plus en plus, maintenant, ça a cette forme-là. Et quand on a un trait au-dessus, c'est qu'en fait, le champ magnétique, qui est donc à l'intérieur, il est guidé par quelque chose qui peut être soit un noyau en fer doux, ou alors de la ferrite, donc un alliage de fer, de nickel, ou aussi on peut faire, avec un phénomène particulier, si on utilise du cuivre ou du zinc, eh bien automatiquement ça va réduire le champ magnétique. Donc on peut soit augmenter le champ magnétique, et dans ce cas-là on prend du fer ou du nickel, ou au contraire réduire le champ magnétique, et à ce moment-là on prend du cuivre ou du zinc. Voilà. Donc l'unité de cette bobine, c'est le Henri. Et donc là, je vous ai mis la tronche de Monsieur Henri qui a travaillé, lui, sur les bobines, et notamment la mesure de l'induction électrique. Donc 1832, je vous ai dit tout à l'heure que ça... En fait, c'est l'association bobine-condensateur auquel on a pensé dans les années 1870, juste avant le début de la radio. Auparavant, c'était deux composants qui vivaient leur vie presque tout seuls. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'on a eu l'idée de les associer c'est les travaux de Monsieur Hertz qui ont fait ça. Pour faire notamment les circuits oscillants, qu'on verra un peu plus tard. La formule de base de l'inductance, la valeur d'une bobine, c'est l'inductance. Hein? Puisque, alors inductance, c'est le fait qu'il y ait un champ magnétique induit dans ma bobine, qui donc a donné le nom inductance. Hein, donc la valeur d'une bobine, c'est l'inductance. La valeur du condensateur, capacitance. La valeur de la résistance, résistance. Histoire de vous rappeler tout ça. Donc, mon inductance, L'inductance, c'est donc L. Alors pourquoi L? Parce que le condensateur, C, ça va, c'est assez facile. Inductance L, c'est en hommage à Heinrich Lenz, qui a travaillé avec Faraday sur justement la bobine, et tout au moins les champs magnétiques. Et donc ça c'est 1834, hein, vous voyez, 32, 34, c'est les mêmes années où on commence à découvrir les composants individuellement. Et donc L, comme la valeur de l'inductance d'une... Oui, l'inductance avec un L majuscule, bien. Donc, j'ai d'abord un facteur de forme, parce qu'évidemment, selon la forme de la bobine, déjà jointive, pas jointive, déjà rien que ça, et puis après, plus votre bobine est longue, plus le champ magnétique va avoir du mal à revenir à l'entrée. Parce qu'évidemment, il est guidé à l'intérieur de la bobine, mais à l'extérieur, il n'est absolument pas guidé, et donc vous en perdez une grande partie. Et plus votre bobine est longue, plus vous en perdez. Sauf si vous mettez quelque chose autour, là, pour un retour, pour guider finalement le champ magnétique, faire une sorte de... C'est ce qu'on va utiliser dans les transformateurs, où on va avoir des feuilles de tôle qui guident le champ magnétique. Mais la plupart du temps, dans nos applications, le seul endroit où il y a quelque chose qui guide le champ, c'est à l'intérieur de la bobine. Il n'y en a pas à l'extérieur. Il n'y a pas le retour, si vous voulez. Et évidemment, plus votre bobine est courte, plus... ça va être intéressant parce que le champ magnétique se reboucle beaucoup plus facilement. Et puis aussi, la forme va aussi dépendre de ce que vous mettez à l'intérieur, soit c'est de l'air, soit vous mettez quelque chose qui guide le champ magnétique, ou au contraire, qui va le réduire, typiquement du cuivre ou du zinc. Donc, la forme multipliée par le nombre de spires au carré. Ça, c'est très important. Le nombre de spires au carré. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, chaque spire, donc chaque tour de bobine, un va générer du champ magnétique, mais d'autre part va récupérer de l'énergie par le champ magnétique de la voisine. Et quelque part de son propre champ magnétique. Et donc, on a ici un nombre de spires au carré. Et multiplié par le diamètre de la bobine au carré. Alors, pourquoi diamètre ? C'est qu'en fait, le diamètre, donc c'est la distance entre... le diamètre, c'est une distance. Hein. Et ce qui est important pour le passage de mon champ magnétique, c'est pas la distance ici, le diamètre, c'est ici la section de l'endroit où peut passer mon champ magnétique. Donc en fait, c'est mon diamètre au carré. Ah. Donc la formule de base, c'est facteur de forme multiplié par le nombre de spires au carré multiplié par diamètre au carré. Donc ça veut dire que si vous doublez le diamètre, vous quadruplez votre section. Et donc vous quadruplez la valeur de la bobine, enfin, pas exactement, puisque quelque part, si vous quadruplez la valeur de la bobine, enfin la valeur ici du diamètre, vous allez changer la forme de la bobine. Donc vous allez aussi avoir une incidence ici sur le F. Beaucoup moins forte, c'est vrai, mais vous allez avoir une incidence. Alors, par contre, il ne faut pas non plus que ce soit que le diamètre ici soit trop important, parce que du coup, le problème, c'est que vous allez en... vous allez perdre aussi de la, le courant, puisque c'est le courant qui passe dans la bobine qui va générer ce champ magnétique. Et plus votre bobine va avoir une section importante, plus le champ magnétique va être important sur le à l'in, enfin, sur la zone extérieure de la bobine, mais il n'y en aura pas à l'intérieur. Et voilà, et donc les tores, c'est un autre système, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, ça c'est un barreau, et le tore, c'est lorsque la ferrite, je vous repasse ici ce que c'est qu'un tore, je vais vous le remettre sur la webcam. Le tore, c'est ça. Ça, c'est un tore. Là, j'ai mes enroulements qui passent à l'intérieur, donc ça, c'est mes spires, et qui sont enroulés sur un tore. Enfin, la figure géométrique s'appelle un tore. Et donc, à chaque fois qu'on passe un tour, ça fait une spire. Et il faut que alors pour compter la spire dans un tore, il faut que la spire, enfin que le fil passe à l'intérieur du clou. Là, voilà. Si je fais ça ou ça en plus, c'est-à-dire que je mets un quart de tour ou un demi-tour en plus, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que le fil passe à l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on compte, en fait. Je reviens sur mon PDF. Donc, la formule de base, comme pour mon condensateur tout à l'heure, c'est le mu 0, donc c'est la perméabilité, tout à l'heure c'était la permittivité, maintenant c'est la perméabilité du vide ou de l'air sec. Encore une fois, c'est la même chose. Et donc, ici on a une valeur qui est de 1,26 microhenry par mètre. Exactement, c'est 4 pi 10 puissance moins 7. Voilà. Et évidemment, c'est valable ça quand ici à l'intérieur de ma bobine, c'est du vide ou de l'air. Et si je mets autre chose à l'intérieur, eh bien automatiquement, je vais avoir un mu R, donc une perméabilité relative qui va augmenter si j'utilise donc du fer, ferrite, nickel, ou au contraire diminuer si j'utilise du cuivre ou du zinc. Autre notion importante, mais qu'on ne va pas utiliser, nous, enfin, il n'y a pas de question d'examen dessus, et c'est tant mieux, c'est le flux d'induction magnétique. En fait, c'est la valeur du champ magnétique à l'intérieur. C'est mesurer ce champ magnétique. Et donc, ce champ magnétique se mesure en Weber. Alors, la définition du Weber, c'est quoi? C'est le flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, il produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en une seconde par une décroissance uniforme. Ça, c'est la définition de M. Weber qui a donné, puisque cette formule-là, il a été donné par M. Weber qui a travaillé donc sur l'interaction électromagnétique. Et donc, à partir de ce flux d'induction magnétique, on en déduit la valeur de la bobine. Donc la valeur de la bobine, c'est le flux d'induction magnétique divisé par l'intensité. Et l'énergie emmagasinée dans la bobine, sous forme de flux magnétique, c'est 1/2 de la valeur de la bobine multipliée par l'intensité qui passe dans la bobine au carré. Voilà. Donc ça, vous ne l'apprenez pas, je n'ai pas vu de question dessus. En revanche, là-dessus, là j'en ai vu. Et pour ceux qui bricolent, je vous ai trouvé, alors ça marche plus ou moins bien, parce que autant pour les condensateurs, la formule que je vous ai donnée, elle marche impeccable. Ça marche sans trop se poser de questions. Autant la valeur de la bobine pour calculer. Alors, Nagaoka, ça ne veut rien dire du tout. Hein. C'est Monsieur Nagaoka qui a trouvé cette formule. Et ce monsieur Nagaoka, il a fait, voilà, il a donné, alors, précisément, c'est en pouces. Toutes ces valeurs, elles sont en pouces. Et donc, là, j'ai trouvé un endroit où on les a traduits en centimètres, parce que sinon, en pouces, c'est un petit peu difficile. Et donc voilà sa superbe formule pour y arriver. Ça marche à peu près pour des bobines que j'appelle carrées, c'est-à-dire dont le diamètre est à peu près égal à la longueur. Et donc, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, et ben du coup, à Nagaoka, alors ça marche, mais c'est pas, ça marche pas aussi bien, quoi. Et alors, ah oui, alors le 1,26, bah c'est, alors là, vous le prenez comme ça, c'est 4π 10 puissance moins 7 henri. Et on va voir plus tard, quand on va avancer dans le cours, que c'est pas au hasard qu'on a choisi ça. Et on va voir, on va voir plus loin que c'est... Après, c'est les équations de Maxwell qui proviennent de ces valeurs-là. Puisque Maxwell, c'est celui qui il a défini notamment la vitesse de la lumière et l'impédance du vide. Et donc, ces deux paramètres-là sont très liés et sont liés à la perméabilité et à la permittivité du vide. Mais ce qui est important pour vous, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est cette formule-là, parce que vous allez avoir des questions là-dessus. Tout le reste, vous pouvez l'oublier. Mais c'est bon de l'avoir vu une fois, comme ça, quand je vous en reparlerai, peut-être que vous en souviendrez. Donc, on a vu la bobine et le condensateur. On se dit, mais à quoi ça va servir, ce truc-là ? Eh bien, ça va servir uniquement dans le cas de courant alternatif. Donc, si possible, sinusoïdaux, mais pas en courant continu. On comprend bien que, pour mon condensateur, quand je suis en courant continu, une fois que mon condensateur est rempli, là, c'est-à-dire très vite, il ne se passe plus rien. Mon condensateur est rempli, il a expulsé ici un petit peu de courant de la plaque de l'autre côté, et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus. Pour ma bobine, une fois que l'intensité, puisque ma bobine, il y a du courant qui passe à l'intérieur, ça va continuer à passer le courant, mais ce courant va avoir généré un champ magnétique, le champ magnétique va être là, et puis voilà, et le courant va continuer à passer, et rien va se passer. Ça, c'est quand je suis en courant continu. Alors, les exemples chiffrés, on va les donner après. Hein. Paniquez pas. Pour le moment, je vous présente les trucs, après on fera les exemples chiffrés. Donc, pour ma bobine et mon condensateur, quand je suis en courant continu, il y a un truc qui se passe, oui, mais c'est fugace, et puis une fois que la chose s'est passée, c'est tout, il n'y a plus rien d'autre. En revanche, quand je suis en courant alternatif, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est que mon condensateur, si je change de sens du courant, eh bien, mon condensateur, lui, il va se vider, puis se re-remplir, puis se vider, puis se re-remplir. Et plus ce mouvement en fréquence, plus la fréquence devient importante, plus le courant va passer. On va avoir l'impression, mais seulement l'impression, que mon condensateur, il laisse passer le courant. Et plus la fréquence augmente, plus le courant plus il y a de courant. Inversement, la bobine, qu'est-ce qu'elle fait ? Lorsque vous changez de sens le courant de la bobine, première chose, il faut qu'elle absorbe, et arrête le champ magnétique et qu'elle le fasse aller dans l'autre sens. Et donc, plus vous augmentez la fréquence, plus la bobine elle va avoir de mal à changer de sens pour son champ magnétique. Et donc, à l'inverse du condensateur, plus la fréquence elle augmente, plus le courant a du mal à changer de sens. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les comportements sont opposés, mais on va voir quand on fera l'association bobine-condensateur, que ces comportements sont complémentaires. Il y a des risques d'exploser pour le condensateur, c'est si on augmente trop la tension, oui, mais sinon il n'y a aucune raison que ça explose. Et donc, on sent bien qu'on va avoir des phénomènes de résistance. Hein, plus la fréquence augmente, plus la valeur de l'intensité dans mon condensateur augmente. Et donc, c'est comme s'il y avait moins de résistance. Mais on ne peut pas appeler ça résistance. Et pourquoi ? C'est que dans le cadre de ma résistance, si je mets une valeur plus importante, bah, elle va chauffer plus. Dans le cadre de mon condensateur, quand bien même je mets une valeur de condensateur plus importante, le condensateur, s'il est parfait, ne chauffera jamais. De même, la bobine, si elle est parfaite, le fait de changer de fréquence plus souvent va avoir tendance à augmenter l'impédance de la résistance, qu'on croit être une résistance, qui n'en est pas une, et pour autant, la bobine ne chauffera pas. Donc, pourquoi ? C'est que dans le cadre de mon condensateur ou de ma bobine, toute l'énergie, elle est stockée. Dans le cadre de mon condensateur, elle est stockée dans les plaques qui sont en vis-à-vis. C'est ça qui est la réserve d'énergie. Et dans le cadre de ma bobine, c'est le circuit magnétique, donc le champ magnétique qui a été créé. C'est ça qui est la réserve d'énergie. Et à chaque fois qu'on inverse le courant, eh bien en fait, tout simplement, on récupère l'énergie que l'on a emmagasinée. Et donc c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça résistance, même si c'est le même phénomène qui va se passer, on va appeler ça impédance. Et on ne va pas appeler ça R comme résistance, on va appeler ça Z comme, je ne sais pas quoi, mais en tout cas comme impédance, oui. Et plus précisément, dans le cadre de la bobine, on va appeler ça réactance, et dans le cas du condensateur, on va appeler ça capacitance. Voilà, ou réactance négative. Alors, juste pour information, impédance, ça vient d'où ? Alors, c'est un vieux mot français, que j'ai retrouvé chez Victor Hugo, c'est pour vous dire. Et les impédiments, ce sont les bagages qui ralentissent la marche d'une armée. Donc c'est typiquement l'intendance. L'intendance est tout ce que ramène l'intendance derrière pour approvisionner les bons soldats. Eh bien, ce sont des impédiments. Alors, l'auteur se retrouve sur le lien entre antenne et... Oui, tout à fait, le tore, on va le retrouver un peu partout, parce que l'intérêt du tore, c'est que, le champ magnétique, il reste à l'intérieur, là. Le champ magnétique est rebouclé, et donc, on a une meilleure... la transformation du courant est meilleure, il y a moins de pertes. L'énergie n'est pas perdue puisque mon champ magnétique est rebouclé. Dans un tore, le champ magnétique est complètement rebouclé. Il n'y en a aucun à l'extérieur, il est tout emmagasiné. Alors que dans mon cas ici, mon champ magnétique, il est en partie, il est dans la nature ici. Hein. Il n'est pas trop guidé. Donc automatiquement, ce genre de bobine, quand on va l'utiliser en tant que transformateur, qui est un cas particulier de bobine, on va avoir un rendement qui va être moindre. Euh, Donc voilà, donc ça c'est très important, la bobine et le condensateur ne consomment aucune énergie. Enfin, tout au moins, ceux qui sont parfaits, on va voir ceux qui ne sont pas parfaits, évidemment, ceux-là, ils vont avoir des problèmes, mais sinon, s'il est parfait, l'énergie est emmagasinée dans le composant et restituée à l'identique. Ah ben on en arrive au calcul, parce que c'est bien beau de dire ma bobine et mon condensateur, mais moi ce que je veux, comme à chaque fois, c'est me retrouver avec ma loi d'Ohm. Et comment je fais? Eh bien je calcule mon impédance en fonction de deux choses, la fréquence et la valeur de mon composant. Donc je rappelle, la fréquence, l'autre manière de définir une fréquence, c'est d'utiliser la pulsation. Donc c'est le fameux oméga minuscule grec qui donne la valeur de la pulsation. Et donc cette valeur-là, oméga, c'est 2 fois pi, donc 6,28, multiplié par la fréquence en Hertz. Ça, c'est ma pulsation, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et donc, la valeur, l'impédance de mon condensateur, c'est quoi? C'est la capacitance, donc, je rappelle, et la capacitance, qui est donc l'impédance du condensateur, c'est pour ça que j'appelle ça Z, avec le petit indice là pour C, pour dire que c'est l'impédance du condensateur, c'est égal à 1 divisé par oméga C. Oméga, donc c'est ma pulsation, et c'est la valeur du condensateur. Donc la formule, l'impédance, donc calculer l'équivalent résistance de mon condensateur, c'est 1 divisé par 2 fois pi fois F, fréquence en Hertz, et le condensateur en farad. Ça, c'est la formule de base. Et évidemment, vous n'allez jamais avoir une fréquence en Hertz et jamais un condensateur en farad, parce que Hertz, c'est des valeurs très petites. Enfin, un condensateur en farad, je dis toujours, c'est un truc énorme. Je donne toujours cette anecdote parce que ça donne, c'est très visuel. Moi, j'ai travaillé longtemps dans une usine. Enfin, j'ai toujours été comptable, mais voilà. À un moment, j'étais comptable dans une usine, et cette usine, on avait énormément de moteurs, c'était de la métallurgie, et voilà, il y avait des moteurs dans tous les sens, et ces moteurs faisaient que un moteur, ce ne sont que des bobines, on est bien d'accord, et ça faisait en sorte que le courant électrique fourni par EDF, du coup, était déphasé. On va voir pourquoi tout à l'heure ça déphase. Et donc, comme ça déphase le courant, EDF nous facture les frais qu'il a pour remettre en phase les phases du courant. Le fait de mettre en place des tas de moteurs faisait que le courant, ça déphasait le courant sur tout le réseau environnant l'usine. Et donc, on avait, alors sur les factures, ça s'appelle le cosinus phi. Et pour vous donner une idée, la moitié de la facture EDF, qui était quand même, c'était en francs à l'époque, mais de mémoire, on devait payer 1 million de francs de facture EDF tous les mois, et il y avait la moitié qui était que pour le cosinus phi. Donc on ne consommait pas d'électricité, mais on la déphasait. À un moment, le chef de l'usine a dit, on en a marre de payer un cosinus phi, on va faire en sorte de redresser finalement le courant, de le remettre en phase. Et pour cela, la seule solution, c'est d'utiliser un condensateur, enfin des condensateurs. Et en fait, on a acheté deux condensateurs d'un farad pour mettre donc en série avec notre installation pour contrecarrer finalement les valeurs des bobines des moteurs. Et pour ces deux condensateurs de 1 farad, il a fallu construire un bâtiment. Pourquoi ? C'est qu'on était en 48 kV, et donc un condensateur d'1 farad à 48 kV, eh ben, il a fallu construire un bâtiment pour le mettre dedans, parce que sinon ça ne tenait pas. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de la grosseur, de l'importance du volume de ces composants. Voilà. Et donc, quand on dit un condensateur d'un farad, c'est une grosse valeur. Voilà. Et en plus, quand on dit un farad qui tient à 48 kV, là, c'est une très grosse valeur. Donc, pour en revenir ici à ma formule, c'est ce que je vous disais en introduction. Ça, c'est la formule de base. Donc, il faut utiliser... Alors, il y a des questions sur cette formule, déjà. Donc, déjà, il faut la connaître. 1 sur 2 pi fc. Et puis, d'autre part, quand on a l'habitude d'une calculette, c'est assez simple à faire. Alors, peut-être pas utiliser 2 fois pi, mais tout simplement 6/28, ça suffit largement. Tout au moins, ça suffit, puisque derrière, tous les calculs sont arrondis. Donc on ne va pas commencer à se compliquer la vie. Et puis d'autre part, il y a cette formule simplifiée. Donc l'impédance en ohm est égale à 159 divisé par la fréquence en mégahertz et divisé par le condensateur en nanofarad. Donc si vous n'utilisez pas le mégahertz et le nanofarad, si dans la question il n'y a pas de mégahertz et de nanofarad, il faut d'abord traduire, transformer, pour obtenir ici des mégahertz et des nanofarads. Et ça va vous donner donc une impédance ici en ohm. Alors d'où vient ce calcul, ça? Eh bien ici je vous ai mis le développé. Donc là, la valeur du condensateur c'est Q divisé par U, on a vu ça tout à l'heure. Q je remplace par sa valeur I multiplié par T. Du coup, le I... alors attendez, là je transforme, donc j'inverse le tout, le C, alors le C je l'envoie de l'autre côté de mon signe égal, et le I sur U je l'envoie de l'autre côté de mon signe égal, si bien que au final j'ai T divisé par C est égal à U divisé par I. U divisé par I, ça c'est la résistance ou l'impédance, c'est Z. Et 1 sur T, T divisé par C, T, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est cette fameuse partie active. Là. Et ça, c'est 1 sur 2 pi F. Donc finalement, ce T, je le remplace par 1 sur 2 pi F, je multiplie par C, et c'était bien égal à Z. Donc j'ai bien retrouvé ici ma formule de base. Pour la bobine, c'est une formule qui va être à l'inverse, c'est-à-dire que au lieu de prendre 1 divisé par oméga c, je fais oméga l, c'est plus simple, et donc c'est 2 fois pi fois f fois l. Ou, si, pour ma formule simplifiée, donc Z en ohm est égal à 6,28 multiplié par la fréquence en mégahertz multiplié par la valeur de la bobine en micro-henri. Encore une fois, si ce n'est pas des mégahertz ou des micro-henri, il faut transformer avant d'utiliser cette formule. Sinon, vous vous plantez de 1000 quand même au passage. Donc, c'est un petit peu gênant. Même chose ici pour comprendre d'où vient cette formule. Je reprends les mêmes formule que tout à l'heure, ce que j'ai vu, les définitions de ma bobine maintenant. Donc L est égal à phi divisé par I. Phi, c'est U multiplié par T. je fais la même chose, c'est-à-dire que le t, je le passe en dessous, puis là, u divisé par i, c'est plus simple encore. Donc l divisé par t est égal à u divisé par i. T, c'est 1 divisé par 2πf. Donc si je divise, enfin, si je fais l'inverse de 1 sur 2πf, ça me fait 2πf. Donc ça me fait 2πf fois l est égal à z. Et donc voilà d'où vient ma formule. Encore une fois, ça je vous ai mis ça en italique, donc c'est pas à connaître, mais si vous avez un peu de connaissances mathématiques, c'est savoir d'où viennent ces formules. Parce que c'est quand même c'est important de le savoir, quoi. Enfin important. Ça tombe pas du ciel. Voilà. Et ce qui est très important, en revanche, c'est bien de se souvenir soit de la formule de base, soit de la formule simplifiée, comme vous voulez. Encore une fois, j'ai pas d'a priori. Si vous êtes à l'aise avec une calculette, utilisez plutôt la première formule. Si vous n'êtes pas à l'aise, utilisez la deuxième. Mais souvenez-vous quand même de la première, parce que il peut y avoir des questions sur la formule en elle-même, pas sur l'application, mais sur la formule. Évidemment, les bobines et les condensateurs, on peut les grouper comme les résistances. Sinon, ça ne serait pas drôle. Donc, on peut avoir des groupements de condensateurs et des groupements de résistances, en série et en parallèle. Pour le condensateur, lorsqu'on est en série, c'est un peu compliqué et finalement, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est le calcul inverse des résistances. C'est-à-dire que si vous avez des condensateurs en série, vous utilisez soit l'inverse de la somme des inverses, comme on a fait pour les résistances, ou produit sur somme. C'est simple. Juste un petit truc, et ça c'est important quand on bricole. La répartition de la tension est au prorata inverse de la valeur des condensateurs. C'est-à-dire que le plus petit condensateur a la tension élevée, la plus élevée à ses bornes. Et ça, c'est très important, puisqu'on a vu que pour les condensateurs, il fallait souvent définir quelle est la tension maxi utilisable. Donc, quand on a des condensateurs en série, c'est le plus petit condensateur qui a la plus forte tension à ses bornes. Et quand on est en parallèle, on voit bien que, alors je reviens sur mon condensateur, si je suis en parallèle ici, je vois bien que si je rajoute un deuxième condensateur en parallèle là-dessus, bah finalement je rajoute de la surface de plaque en vis-à-vis, et donc bah je rajoute de la valeur à mon condensateur. Donc le condensateur en parallèle, c'est la somme des valeurs des condensateurs. Donc, moralité, on est exactement avec un calcul inverse des résistances. En revanche, les bobines, elles, vont fonctionner sur le même modèle que pour les résistances. Mais attention au champ magnétique. C'est-à-dire que si vous avez deux bobines qui sont l'une à côté de l'autre, il faut faire très attention à ce que les champs magnétiques ne se mélangent pas. Parce que s'ils se mélangent, finalement ça fait une même bobine, et on a vu que pour la bobine, la valeur de la bobine, c'est le nombre de spires au carré. Donc c'est très important ça, d'avoir... Donc la valeur en série, la valeur d'une bobine, c'est donc la valeur de la bobine 1 plus la valeur de la bobine 2, ok, mais plus ou moins la mutuelle adduction, parce qu'il suffit, par exemple, que vous ayez une bobine avec les bobines tournées dans un sens, et puis que vous mettez à côté, enfin tout au moins dans le même axe, une bobine avec les bobines bobiner dans l'autre sens, eh bien du coup les deux champs magnétiques s'annulent. Et donc c'est pour ça qu'on met plus ou moins ici la mutuelle induction. Alors pour éviter ces désagréments, alors premièrement il suffit déjà de blinder, mettre un blindage autour des bobines. C'est pour ça qu'on a souvent là je vous avais montré tout à l'heure, ici, voilà, ici on voit bien il y a des blindages. Je ne vais pas trop agrandir parce qu'après ça devient flou, mais ici on voit il y a des blindages. Pourquoi ? C'est pour éviter que les champs magnétiques ici viennent perturber les champs magnétiques qui sont juste ici. Donc ici on met un blindage qui est là pour éviter justement que mes champs magnétiques se gênent l'un l'autre. Pour le condensateur, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de champ magnétique, tout reste à l'intérieur du condensateur. Mais le problème, c'est les bobines. Je reviens plus loin. Ah, voilà. Et donc, voilà, pour mes bobines, et donc la solution, par exemple ici, c'est de mettre une bobine dans un axe et la deuxième bobine qui est juste à côté, ici, dans perpendiculaire. Ce qui veut dire que, au pire, on peut avoir dans le même ensemble, à peu près, trois bobines dans des trois axes. On peut encore en mettre une ici verticale qui ne gênera pas trop par son champ électromagnétique. Son champ magnétique tout court d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on met plus ou moins, parce qu'on peut être soit dans le même sens de bobinage, ou en sens inverse, et donc ça c'est le coefficient de couplage des bobines. Si elles ne sont pas couplées, si elles sont couplées dans un sens positivement, ça devient plus, et si elles sont couplées, si elles sont bobinées à l'envers, du coup, c'est un couplage négatif qui va réduire la valeur de la bobine. Et enfin, on peut aussi utiliser des montages parallèles pour les bobines. C'est rarement utilisé. Et quand il y a de la mutuelle induction entre deux bobines, alors là, ça devient inextricable et très compliqué à calculer. Voilà. Mais les principaux calculs vont porter ici sur les capacités équivalentes des condensateurs en parallèle, en série et en parallèle. Il y a eu quelques questions sur les bobines, mais très peu. Les principales questions tournent autour ici des condensateurs. Et encore une fois, pas trop de... c'est pas des formules nouvelles, puisque vous les avez déjà vues quand vous avez fait les résistances. Il faut se dire que le condensateur, ça fonctionne à l'inverse d'une résistance. Voilà. Et les bobines comme les résistances. Dernier point sur les bobines et condensateurs. Ça, c'est... Alors déjà, dans une résistance, la tension et l'intensité sont en phase. Ça, c'est le principe de la loi d'Ohm. Si j'ai une tension, j'ai une intensité. Si j'ai pas de tension, j'ai pas d'intensité. Donc quand je suis en courant alternatif, même chose, ça va suivre cette même logique. Tension et intensité, il y a tension et intensité en même temps. Ça c'est clair. En revanche, quand on est dans le cas de la bobine et du condensateur, là, j'ai un déphasage. Dans le cas... Alors, déjà, on mesure toujours le déphasage par rapport à l'intensité. L'intensité, c'est la référence. Et après, on regarde la tension, où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est avant ou après? Dans le cas du condensateur, la tension est en retard. Souvenez-vous, quand on avait fait notre cercle trigonométrique la semaine dernière, on avait parlé de ces retards. Et donc, en fait, mon point de ma tension dans le cas de mon condensateur, elle est déphasée de 90 degrés en retard. Donc elle est en bas, en fait, hein, dans mon cercle trigonométrique, si je prends ma référence à 0. Et donc, ici, j'ai mon intensité ici en rouge, et en bleu arrive après, donc en retard, ma tension. Alors que dans ma bobine, la tension, elle est en avance. Ici, j'ai mon intensité, toujours en rouge, et elle est en avance, donc elle vient avant. Donc, dans un condensateur, il y a d'abord l'établissement du courant, hein, puisque on remplit d'abord le condensateur, il faut qu'il y ait de l'intensité pour le remplir, et une fois qu'il est rempli, il n'y a plus d'intensité, mais la tension, elle est toujours là, puisque elle a chargé finalement les deux plaques de mon condensateur. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la tension, comme elle arrive après, elle est en retard. En revanche, dans le cadre de la bobine, il faut, pour qu'il y ait de l'intensité dans ma bobine, il faut d'abord, il faut d'abord qu'il y ait une tension, et c'est cette tension qui va générer le courant et le champ magnétique. S'il n'y a pas de tension, il n'y aura pas de courant et donc pas de champ magnétique. Et une fois que le champ magnétique est là, eh bien l'intensité, elle reste, mais la tension, du coup, il n'y en a plus besoin, puisque mon champ magnétique a été créé. Et c'est pour ça qu'on dit que la tension est en avance sur le courant. On verra ça plus en détail la semaine prochaine, en rajoutant un petit peu des trucs à la sauce. Donc le condensateur parfait, la bobine, le condensateur non parfait, la bobine non parfaite, dont le déphasage ne va plus être de 90 degrés, mais d'un peu moins, parce que justement il n'est pas parfait. Voilà les exercices que vous attendiez tous. Premier exercice, premier exemple. Et puis après, on va voir aussi les questions d'examen. Donc ça, ce sont les exemples du cours. Exemple 1, un condensateur variable a une capacité de 100 picofarads. Quelle sera sa valeur si la surface des lames vis-à-vis est diminuée de moitié? Donc on divise la surface des lames de moitié. Automatiquement, la valeur de mon condensateur, comme la formule, c'est donc le coefficient diélectrique multiplié par la surface divisé par l'épaisseur, je divise par 2 ma surface, donc je divise par 2 la valeur. Voilà. Donc, si j'ai 100 picofarads au départ, j'ai 50 picofarads à la fin. Exemple 2, l'inductance d'une bobine cylindrique a une valeur de 5 microhenries. Cette bobine possède 40 spires. Quelle sera la valeur de l'inductance avec seulement 10 spires? Et là, on demande en nano-henries. Voilà. Et donc, j'ai 40 spires. Alors, qu'elles soient cylindriques ou carrées, on s'en fout complètement. Ça perturbe. C'est plus pour vous perturber qu'autre chose. On passe de 40 spires à 10 spires. Donc, la valeur, nombre de spires divisé par 4, et donc si c'est divisé par 4, eh bien la valeur de la bobine est divisée par 16, puisque c'est le nombre de spires au carré. D'accord ? Et donc je divise ces 5 microhenries par 16, ça me donne, alors je sors ma calculette hein, évidemment, parce que sinon là, de tête j'ai un peu de mal, ça me donne 0,3125 microhenries, c'est-à-dire 312,5 nano-henries. Donc là, il y a en plus une transformation à faire de micro à nano. Bon, il n'y a qu'un seul... déplacement de virgule à faire. Enfin bon, il ne faut pas se planter, parce qu'évidemment, vous allez trouver dans les réponses 31,25 nano à coup sûr. Enfin, dans les réponses proposées, et trouver 31,25 à coup sûr. Juste une remarque. On voit ici, on passe de 40 à 10 spires. Donc, vraisemblablement, la forme de la bobine va avoir changé, parce que soit les spires restent jointives, et dans ce cas, la bobine elle est plus courte. Et comme elle est plus courte, eh bien, le champ magnétique va mieux se reboucler, et donc la valeur de la bobine va être meilleure. En revanche, si j'étale ma bobine pour qu'elle ait la même longueur, du coup mes spires sont plus jointives, et de ce fait, le champ magnétique peut s'échapper, d'accord ? Et s'il s'échappe, et bien automatiquement, ma valeur de la bobine va diminuer. Donc c'est pour ça que le facteur de forme ici est important. Alors ça va pas avoir un impact énorme, on va voir tout à l'heure là sur les manips, c'est pas énorme l'impact, mais on peut bouger de 10-20% facilement. Et donc du coup, la valeur de la bobine, elle est plus exactement, c'est plus aussi linéaire que ça, quoi. Mais en l'occurrence, dans la question d'examen, ce point particulier n'est pas évoqué. On demande juste le calcul bête et méchant, hein, sans plus réfléchir. Et sachez que dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Exemple 3 et 4, donc ça j'ai fait des copies du cours tout simplement. Donc ici, une bobine qui fait 12,5 microhenri, une fréquence 8 mégas, quelle est l'impédance? L'impédance, donc, c'est 6,28 fois la fréquence fois la valeur de la bobine. Donc 6,28 multiplié par 8 multiplié par 12,5, puisque en formule simplifiée, coup de chance, c'est bien du microhenri, c'est bien du mégahertz. Donc 8 fois 12,5, ça me fait 100, ça c'est facile. Et 100 multiplié par 6,28, ça me fait 628 ohms. Et puis sinon, on peut le faire aussi à la calculette. Et on y va, on se met tout ça sur la calculette, et aux joies au bonheur, on a bien le même résultat, 628 ohms. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser votre calculette, vous tapez ces belles choses-là. Exemple 4, quelle est la valeur du condensateur en microfarad et la quantité d'énergie en millijoules emmagasinée dans le condensateur? Évidemment, dans les questions d'examen, c'est l'une ou l'autre, c'est pas les deux, évidemment. Et là, pour le cours, j'ai mis les deux. Il y a deux questions. Donc, la quantité d'électricité emmagasinée dans mon condensateur, c'est 0,8 millicoulomb, et la tension ou borne du condensateur, c'est 20 volts. Donc je développe ma formule. Donc C est égal à Q divisé par U. Donc des 0,08 millicoulomb, c'est 0, il ne faut pas se planter de 0, divisé par 20. Ce qui me donne ça en farad, et là il ne faut pas encore se planter de 0, on voit que ça me fait 0,00004, c'est-à-dire 40 microfarads. D'où l'utilité quand même d'utiliser une calculette, parce qu'au moins vous avez des puissances de 10 et vous ne plantez pas trop, vous ne vous plantouillez pas trop si vous utilisez ça. Et l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est donc 1/2 de Q multiplié par U. Q, c'est donc la valeur ici, multipliée par la tension, et ça me donne donc 8 millijoules. 0,008 joules et 8 millijoules. Autant la première question, là, c'est des questions qui sont fréquentes, à l'examen, la question numéro 4, là, elle est beaucoup moins fréquente. Je vous rassure, les trois quarts des questions, même 90-95% des questions, ça tourne autour de cet exemple 3. Exemple 4, on en a très très peu. On en a eu, mais on n'en a plus. Tant mieux. 5 et 6, donc ça, c'est l'impédance de mon condensateur. Donc tout à l'heure, on a vu l'impédance de la bobine. Et on s'est arrêté là. Là, finalement, on va compliquer un petit peu notre raisonnement. Donc ici, on a... En fait, là, c'est pour vous inciter à travailler la loi d'Ohm. Et avec ce que l'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire les valeurs efficaces et les valeurs maximum. Donc ici, vous avez une fréquence, 15 kHz, la valeur d'un condensateur, 10 microfarads, et on demande ici l'intensité, donc I est égal à U sur R. U, 14 volts maximum, donc déjà, ces volts maximum, ça serait bien de les transformer aussi en volts efficaces pour pouvoir utiliser ma loi d'Ohm. Et pour calculer ma résistance, je vais calculer l'impédance de mon condensateur, ou la capacitance de mon condensateur. La capacitance de mon condensateur, c'est 1 sur 2 πfc. Donc je développe tout ça. Donc ça me fait 6,28 multiplié par 15 multiplié par 10, ça me fait 10 puissance 3, ça me fait 1000 divisé par 6,28 fois 150, et ça me donne à peu près un ohm. À quelque chose près. Bon, un ohm. Donc ce qui veut dire que mon condensateur qui est là, à la fréquence de 15 kHz, il est comparable à une résistance qui ferait 1 ohm. Et donc, 1 ohm, donc I est égal à U sur R, U, 10 volts efficaces, puisque là je ne prends pas mes volts maximum, je prends des volts efficaces, divisé par 1 ohm, donc ça me fait 10 ampères. Et si on prend les valeurs exactes de pi, ici, parce que là, j'ai arrondi en disant que c'était 10 volts efficaces, mais 14 volts maximum, puisque je multiplie par 0,707, ça ne me donne pas exactement 10 volts. Hein. Mais si on met tout ça les vraies valeurs, on obtiendrait 9,33. Donc c'est quand même très proche de 10 ampères. Ici, je vous ai mis les écritures, les formules en écriture simplifiée, au cas où vous vouliez les utiliser, puisque là, j'ai pas de mégahertz et j'ai pas de nanofarad, j'ai des microfarads et des kilohertz, donc ça simplifie pas la vie. C'est une question. Alors, il y en a quelques-unes comme ça à l'examen, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Et c'est une question quand même assez tordue. Et puis enfin, une question qui est assez classique à l'examen, la capacité équivalente de deux condensateurs comme ça en parallèle, 100 picofarad et 0,4 nanofarad. 0,4 nanofarad, ça fait 400 picofarad. Donc 400 et 100, puisqu'ils sont en parallèle, ça me donne donc 500 picofarad. Voilà, maintenant on va passer aux vraies questions d'examen, celles qui sont posées le jour de l'examen. Il n'y a pas vraiment de piège. Enfin, je pense pas que ça fait pas partie ça des séances où vous allez apprendre des nouvelles formules, puisque tout ce que vous avez déjà à part les impédances, vous avez déjà vu toutes ces formules-là auparavant. On rajoute juste des notions qu'il faut bien comprendre sur ce qu'est un condensateur, ce qu'est une bobine. Donc première question, quels sont les éléments déterminant la capacité d'un condensateur, la nature du diélectrique, la distance entre les armatures. Alors les armatures, c'est l'autre mot pour dire les plaques ou les... Le conducteur où on a de chaque côté du condensateur. Bon, ça s'appelle aussi en termes techniques les armatures. Donc troisièmement la surface des armatures en regard, quatrièmement la tension appliquée. Donc la valeur du condensateur ne dépend absolument pas de la tension appliquée, mais va dépendre des trois premiers éléments, donc 1, 2, 3. Quel est l'effet de la réduction de l'épaisseur du diélectrique sur la valeur d'un condensateur? Est-ce que la capacité augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle ne change pas? Ou est-ce que la tension aux bornes du condensateur est augmentée? Ce qui est bougé, c'est la valeur du condensateur. Et lorsque je diminue l'épaisseur, j'augmente la valeur du condensateur. Là, quelle est la capacité équivalente du condensateur? Donc là, il faut que j'utilise la formule produit sur somme. Donc j'ai 12,56. Donc, comme pour les résistances, je me dis là que la valeur équivalente dans ce cas-là est toujours inférieure à la plus petite des valeurs. Donc déjà, toutes les valeurs qui sont supérieures à 12 microfarads, je l'élimine. Donc 68, 15. Il me reste juste 8 et 10. Et alors là, je suis un petit peu coincé, et je dirais, compte tenu ici de la valeur ici du 56 microfarads, je dirais, sans faire de calcul, que c'est plutôt le 10. Voilà. Mais si on veut faire le calcul, on fait 12 fois 56 divisé par 12 plus 6. Je sors ma calculette, que j'ai pas loin, que j'ai là. Je ne vous la mets pas à la webcam, parce que voilà, c'est pas 12 fois 56 divisé par 12 plus 56, donc 68, égale 9,882. Donc, c'est bien mon 10 qui... je le sentais bien à 10 et non pas à 8. Pour que ce soit 8, il aurait fallu ici une valeur du style 20 ou 30, quoi. Les bonnes réponses, voilà. Capacité équivalente de 6 condensateurs de 33 nanofarads en série. Donc là, en fait, je fais comme pour mes résistances qui étaient donc en parallèle. Je divise mes 33 nanofarads par 6. Donc je fais 33 divisé par 6, tout simplement. 33 divisé par 6 est égal à 5,5. Donc 5,5 nanofarads. Vous remarquez que, premièrement, quand on est en série comme ça, on ne peut être que inférieur à la plus grande des valeurs, donc inférieur à 33 nano. Et qu'est-ce qui me reste ? Ben, pas grand chose, puisque ça c'est supérieur, ça c'est la même valeur, donc il n'y a aucune raison. Ça c'est supérieur, 550 micros c'est bien au-dessus, et il n'y a plus qu'une seule réponse, donc même sans calcul, on peut trouver la réponse. Évidemment, il ne faut pas se tromper de formule, hein, c'est tout. Ici, des condensateurs qui sont en parallèle, donc évidemment ça s'additionne. 33 plus 12, ça me fait 45. 45 micros, qui est là. Je n'ai pas sorti ma calculette quand même, ça serait dommage. Et puis, aussi, on a des questions sans schéma. Impédance d'un condensateur de 50 picos à 432 mégas. On y va à la calculette, que je vais vous mettre sur la webcam, parce que ça... C'est... Hop. Donc, 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6,28, parce que je ne fais pas 2 pi, hein. C'est pas utile. 432 multiplié par 10 puissance 6, puisque ce sont des mégas. Et donc je fais 1 divisé par, hein. 6,28. Multiplié par 432, multiplié par 50 picos, donc multiplié par 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse, exé. et ça me donne donc 7,372 10 puissance 0, donc 7,4. Et coup de chance extraordinaire, il y a un 7,4 qui est dans les réponses proposées, donc celle-là, je la sens bien. On passe, alors est-ce qu'elle veut bien passer ? Yes, on est bon. Que se passe-t-il si sur une self on double le nombre de spires ? Donc je double le nombre de spires, donc ma valeur, elle va quadrupler puisque je prends le nombre de spires au carré. Et donc ma valeur, elle est multipliée par 4 ou quadruplée. Impédance de la... Enfin, impédance équivalente, pardon. Alors là, on vous a mis quand même un schéma. Alors l'ANFR est très forte quand même parce que souvent les bobines, elles ne sont pas représentées sous forme bobine, comme ils ont un peu la flemme pour faire leur dessin. Ils la représentent ici sous forme de rectangle. Mais par contre, il y a bien marqué la valeur de la bobine en dessous. Donc c'est un peu perturbant, on se dit ça doit être des résistances. Pas du tout, ce sont des bobines. Très mal dessinées, mais il y a la valeur de la bobine en dessous. Voilà, donc quand c'est ici en série, c'est comme pour les résistances. Ici, ça va me donner 25 microhenries. Évidemment, on va supposer qu'il n'y ait pas de mutuelle induction. Mais voilà, il n'y a aucun élément qui vous dit qu'il n'y a pas de mutuelle induction. On va supposer qu'elles sont suffisamment éloignées ou qu'elles ne sont pas dans le même axe. Et enfin, quelle est l'impédance de la bobine de 50 microhenries à 50 Hz ? On se le fait à la webcam. Alors, donc c'est 6,28 multiplié par la fréquence, 50 Hz, multiplié par la valeur de la bobine, 50, multiplié par 10 puissance moins 6. Exé. Et ça me donne donc 1,57 10 puissance moins 2, donc 15,7 milli. Est-ce que j'ai ça ? Eh ben oui, j'ai ça. Extraordinaire, j'ai 15,7 milli, donc j'ai bien ma réponse. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas ça. Voici les bonnes réponses. Et on en arrive à la manip du vendredi soir. Alors là, je vous ai fait des manips. Alors je vais faire un peu de ménage sur mon bureau. Je reviens. Alors on va calculer, enfin mesurer des valeurs de bobines et des valeurs de condensateurs, enfin fabriquer des bobines et des condensateurs, essayer de trouver leurs valeurs et mesurer, voir si c'est cohérent avec ce que l'on a calculé. Donc on va commencer par les bobines. Donc là, je vous ai présenté une jolie bobine, faite avec du bon vieux fil électrique. Je vais pousser celle-là. Donc voilà, elle est ici. Je vais vous la mettre devant. Voilà, je reprends mon crayon pour vous montrer. Donc elle est, c'est une jolie. Alors je l'ai montée en fait sur une cheville. Hein. Une cheville à placo. Voilà, que j'avais dans mon stock. Puis j'ai pris du petit fil et puis j'ai bobiné. En tout, il y a 20 spires en l'air. Et puis là, je la tiens ici par un collier rixant. Puis ici, j'ai fait un petit nœud pour que ça ne se débobine pas. Voilà. Et donc, la première chose, c'est essayer de calculer la valeur de cette bobine. Je reviens sur le PDF pour montrer la manière dont j'ai fait pour le calculer. Voilà, donc j'ai pris, donc c'est 20 spires, j'ai pris j'ai mesuré à peu près quelque chose, j'ai pris une pile en fait qui me permet d'avoir 2,1 cm de diamètre intérieur, c'est une pile que j'ai utilisée. Elle fait 1 cm de long, j'ai pris mon double décimètre, j'ai mesuré, et ça fait 1 cm de long. Il se trouve que si je la tiens bien droite, spire jointive, du coup, voilà, j'utilise la formule de Nagaoka, telle qu'elle me l'a donnée, qui fonctionne pour une bobine carrée et jointive. Donc, je prends ma formule, je l'applique, et ça me donne donc une valeur de 9,07, on va dire 9 microhenri. Et bien maintenant, je vais mesurer cette belle bobine, et pour cela, j'ai un mini VNA que je vais remettre sur la webcam. J'ai un mini VNA, et sur ma fonction du mini VNA, j'ai une fonction qui me permet de remettre un peu plus de hauteur, voilà, qu'on y voit un peu mieux. J'ai une fonction qui me permet de mesurer la valeur des bobines et des condensateurs. Donc ça s'appelle LCmeter. J'appuie dessus. Évidemment, il me dit out of range, c'est normal, j'ai rien mis. Je mets ma bobine. Et qu'est-ce que ça me dit ? Rien du tout. Et oh ! On se réveille. Ça doit pas être bon, ça doit mal être branché. Non, il est branché en picofarad, donc c'est pas ça. Tout à l'heure, ça marchait bien, je vous le jure. Alors, pourquoi il veut plus marcher, lui ? Pourquoi ça veut plus marcher ? Voilà, et j'ai trouvé. Donc, je mets mes spires jointives, à peu près au carré, et là je tombe sur 10. 10 microhenri. Pour mes 9 de tout à l'heure, c'est pas si mauvais que ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Moi, je pense que c'est à peu près lisible. Par contre, vous ne voyez pas la bobine. Voilà. Donc là, on voit qu'on a 10 microhenri. Et lorsque si je serre mes... donc je raccourcis ma bobine, voilà ce qui se passe. J'ai maintenant 12 microhenri. Inversement, je mets de l'espace entre mes spires, donc j'écarte ici. Alors ça merdouille. Voilà, on arrive à 9,5. D'accord ? Et je resserre, ça repasse à 12. Et maintenant, je vais insérer le barreau de ferrite que je vais utiliser tout à l'heure pour mon autre bobine. J'insère le barreau de ferrite à l'intérieur, ça passe à 35. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est très sensible, hein, donc la forme de la bobine est très importante, et donc on peut facilement changer la valeur de la bobine beaucoup plus que la valeur du condensateur. Donc ça, c'est pour la première bobine. Alors, je ne vais pas utiliser la même chose avec la deuxième bobine. Pourquoi ? C'est que mon analyseur de spectre, enfin, c'est une fonction particulière, et il ne va que jusqu'à, de mémoire, 50 microhenri. Il ne va pas au-delà. Enfin, de toute façon, il n'est pas fait pour, c'est un analyseur d'antenne, donc déjà, il mesure des bobines et des condensateurs. C'est déjà très bien. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il est fait. Je le mets donc de côté, on reviendra dessus tout à l'heure avec une autre expérience. Là, pour le moment, je vais ressortir un deuxième appareil qui a un truc Electronic Box que j'ai monté il y a... Alors ça coûte rien. Je crois que ça coûte 25€, quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est plus ou moins fiable, mais je trouve que c'est... Enfin, pour le prix, ça... ça fait le job, quoi. Et là, je vais vous présenter une deuxième bobine. Je vais prendre le PDF, vous présenter la deuxième bobine. Donc là, j'utilise une deuxième bobine dont la longueur fait 2,5 cm. Je l'ai mesurée. C'est sur un barreau qui fait 1 cm de diamètre. Donc elle va avoir un diamètre de 1 cm. Ce barreau, il est en manganèse et en zinc. Et donc là, mon objectif, c'est d'essayer de mesurer donc la permittivité, la perméabilité relative du ferrite utilisé. C'est-à-dire quel est le coefficient qui va faire, qui va multiplier la valeur de la ma bobine si à la place de mon barreau de ferrite j'avais de l'air, puisqu'il y a un coefficient multiplicateur, et donc quel est ce coefficient multiplicateur? Donc je reprends la même formule que tout à l'heure, Managaoka, puisque elle, encore une fois, c'est à peu près carré et c'est des spires jointives, il y a 100 spires que j'ai bobinées sur ma ferrite. Ça me donne une valeur de bobine théorique de 34 micro-ohms, et donc micro-henry, pardon, et je vais mesurer maintenant la valeur de ma bobine. Donc, ma bobine, elle est là. Ici, je mets mes deux pinces crocodiles là sur ma bobine. Ici, j'ai ma petite pile, je connecte ma pile et j'appuie sur le bouton magique qui lance le calcul. Alors c'est un testeur de composants, c'est-à-dire que ça détermine déjà quel composant je vais utiliser, et donc ça me donne la valeur. Ici j'ai 3 plots, donc je peux aussi par exemple tester les transistors. Quand même très intéressant comme truc. Et donc ça permet comme ça de tester tous les composants et ça donne une valeur qui est plus ou moins pas trop éloigné, voilà, qu'est-ce qu'il me dit. Et bien c'est donc de mes 34 micro-henri, là, il me dit que ça fait alors 0,78 milli-henri, donc 780 micro-henri. Vous notez quand même au passage que ce joli testeur me donne aussi la résistance. La résistance ici de mon... Ah, bon, je débranche. Donc la résistance de 1,4 ohm, c'est la résistance de mon fil, dont on va parler la semaine prochaine, qui est très importante, qui va nous poser des problèmes. Ce qui veut dire que le fait d'ajouter ici ce barreau me donne un coefficient multiplicateur de 780 divisé par 34. Bon, ça donne 23. C'est très approximatif parce que, encore une fois, il faudrait que je mesure la valeur de ma bobine sans le barreau. Ça se complique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai retiré le barreau, à mon avis, il y a tout qui se démonte. Et donc, je vais avoir un peu de problème à la mesurer. Mais bon, on a bien vu tout à l'heure que lorsque j'avais inséré mon barreau à l'intérieur de ma bobine, j'avais eu la valeur de la bobine qui avait augmenté significativement. Je vois plus de commentaires là sur le chat. Je pense que tout le monde s'est endormi. J'ai perdu plein de gens. C'est pas grave. Troisième, je reviens sur le PDF. Troisième manip, c'est sur les condensateurs. Donc là, j'ai un condensateur, je vais voir, ce que j'ai utilisé, c'est de la bakélite cuivrée, simple face, voilà, pour fabriquer deux condensateurs différents. Premier condensateur, c'est donc, alors je vais vous montrer à la webcam, je reviens sur la webcam, je retire ici ma bobine, je la mets dans un coin. La bobine, on va la retrouver, celle-là, on va la retrouver partout dans tout ce que je vais faire comme expérimentation par la suite, à la suite du cours. Donc, et même chose, le condensateur, hein, tout moins un des deux condensateurs, on va le retrouver souvent, parce que c'est bien pratique. Premier condensateur que je vous présente, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris deux plaquettes comme ça, que j'ai réunies hein, par un fil. Donc ça c'est côté cuivre et ça c'est côté bakélite, hein, c'est du simple face. Et ici c'est la même chose, mais sauf que je l'ai entouré de papier, enfin exactement c'est d'étiquette. Donc c'est du papier autocollant, c'est de l'étiquette, et bah, c'est pour isoler. Hein. Donc j'ai isolé ce deuxième, alors évidemment il a la même tronche, hein, sauf qu'évidemment il est dans l'autre sens, il est comme ça. Hein. Et donc je l'ai enrubanné de papier, je le mets à l'intérieur, et là, eh ben, j'essaye de déterminer la valeur de mon condensateur. C'est là que c'est un peu compliqué. J'ai un peu cherché, pour tout vous dire. Alors déjà, dimension, ça fait 4,5 cm de long et ici 4 cm de large. Donc ça, ça me fait 18 cm carrés, chaque plaque. Donc j'ai deux plaques en fait, hein, puisqu'elles sont deux... Donc j'ai 18, ça me fait 36 cm carrés de plaque. Donc ce 36 que je multiplie, donc j'ai mes 36 cm carrés, hein, je reprends ma formule de tout à l'heure, qui est donc 36 cm carrés, multiplié par le 8,85, c'est mon coefficient de perméabilité du vide, et je multiplie par le coefficient, alors je devrais d'abord diviser par l'épaisseur, alors c'est là où je ne sais pas trop, l'épaisseur en théorie, ces étiquettes, elles doivent faire 0,15 mm d'épaisseur, mais compte tenu ici que j'arrive pas trop à presser dessus, quoi. Il faudrait que je presse comme un malade dessus pour être certain que ce soit bien, qu'il n'y ait pas d'air qui se rajoute. Je suis pas certain du 0,15. Mais voilà, donc je divise par 1,5, puisque je suis en dixième de millimètre, et je multiplie par le coefficient multiplicateur du papier, que je sais pas trop, que j'ai cherché sur internet, que ça ressemble, on me dit sur internet que c'est entre 3 et 4, donc ça, c'est vachement pratique, et comme c'est du papier un peu spécial, papier étiquette, donc j'en ai pas vraiment beaucoup d'idées, donc je multiplie par 3, et on va voir ce que ça donne, ça me donne donc 637 picofarades, on va voir ce que ça donne, en vrai, je ressors mon joli instrument de mesure. Hop, toc, toc. Je vais appuyer comme un... Alors, au début, j'avais essayé avec des pinces à linge pour me dire ça va évacuer l'air. Finalement, ça marche pas génial. Donc, je vais utiliser la force de mes doigts, appuyer dessus, pour être certain de vider tout l'air et d'être d'avoir le maximum de capacité. Oula, ça c'est pas normal. C'est énorme. 84,96 micro-henri, à mon avis, il y a un problème. On recommence. Tout à l'heure, c'était beaucoup moins, je vous rassure. Alors, je vais m'assurer ici qu'il n'y ait pas de contact bizarre. Non, ça c'est pas normal. On recommence. Je pense qu'il y a eu, il doit y avoir un contact intempestif, je ne sais pas où, qui me pose problème. Tout à l'heure, enfin en tout cas, le résultat c'était 430 picofarads. Je relance la bête. Ah oui, si je mets pas le. Si je mets pas le jus ici, ça va pas aller. Voilà, 401 picofarads, ça me va bien. Bon, 430 tout à l'heure, c'est peut-être que j'avais plus appuyé, je sais pas. Ou que les plaques n'étaient pas exactement au même endroit. Enfin voilà, j'ai pas vraiment trouvé mes 637 ou approximatifs comme je pensais trouver avec mon condensateur. Voilà. Donc voilà. J'ai plusieurs. Et si je mets juste la pince à linge, là, vous allez voir, la valeur, c'est encore pire. À chaque fois, je suis obligé de faire un reset de la pile, comme ça. Un reset par la pile, je débranche la pile. En revanche, là, voilà, 234. Donc, vous voyez que il y a quand même, je pense que le fait d'utiliser une pince à linge, c'est pas suffisant pour écraser et rapprocher mes deux plaques l'une de l'autre. Voilà. Donc, notez 234 picofarads si j'utilise ma pince à linge. Et ça, c'est à peu près stable. Parce qu'au moins, ma pince à linge, j'ai toujours la même pression. Alors qu'avec les doigts, je ne suis pas certain d'avoir exactement la même pression. Je vais utiliser maintenant mon dernier condensateur. Enfin, le deuxième, tout au moins. Et donc, le dernier composant. Et alors ça, c'est un vieux condensateur que j'ai utilisé depuis très longtemps. Alors ça, c'est un cas très particulier, puisque j'utilise en fait les mêmes plaques, hein, mais là, elles sont en quinconce. C'est-à-dire que j'ai la partie, enfin une plaque ici, le cuivre là, le bakélite là, cuivre là, bakélite là, et là, je les mets comme ça en quinconce. Et donc comme ça, ce qui est maintenant, ce qui fait isolant, c'est la bakélite. Et ça, l'épaisseur de la bakélite, ça, je sais ce que c'est. C'est marqué dessus. Hein, c'est 1,2 mm, ça c'est du classique. Voilà. Et de même, le diélectrique de la bakélite, c'est très connu, c'est 3,7. Ça, c'est facile aussi. Donc, je reprends mes mêmes calculs. Alors, petit bémol, je vais vous repasser le PDF. Petit bémol, c'est que là, je n'ai plus deux surfaces, mais j'en ai trois. Pourquoi ? Parce que je me suis mis en quinconce. Donc, j'ai ici un condensateur, ici un deuxième condensateur, et un troisième ici un condensateur, ici un condensateur, et ici un condensateur. Puisque ici, j'ai mes lames ici qui sont en rouge, là. Et en bleu, ce sont ma bakélite. En fait, il y a une dernière bakélite qui est ici, qu'on voit, qui ne sert à rien, finalement. Hein. Donc j'ai vraiment trois condensateurs. Donc en fait, mes 18 cm², il faut que je les multiplie par 3 et non pas par 2. Au départ, c'est ce qui m'avait un peu perturbé. Et après, j'ai compris mon erreur. Donc, je refais ma manip. J'espère que... Alors, oui, je calcule ça. Donc, je vais refaire mon calcul sur ma calculette. Je reviens sur ma... Donc... je reviens en arrière. Donc là, c'est plus 36. J'aurais dû Suppresse, suppresse. Donc c'est 18 fois 3, puisque j'ai 3 plaques en visa... enfin, 3 condensateurs finalement, qui sont en parallèle, multiplié par 8,85, divisé. Qu'est-ce que je fais là? Ouh là là. Suppresse, suppresse. Là, c'est pas divisé par 1,5, c'est divisé par 12, puisque c'est 1,2 mm que j'ai, que je dois traduire ça en dixième de millimètre, et je multiplie par 3,7, puisque ça, c'est la valeur de mon le coefficient diélectrique de la bakélite, qui est très connu. Et ça me donne 147 picofarad, hein, 1,474 10 puissance 2. Alors effectivement, il y a Cyril qui dit un serre-joint. Le problème du serre-joint, c'est qu'on serre plus ou moins, encore une fois. Donc le serre-joint, une fois que c'est fait, c'est difficilement reproductible. Alors qu'au moins, ma pince à linge, elle est reproductible. Et normalement, les doigts ne doivent pas jouer, puisque je suis à chaque fois côté bakélite. Je serais du côté cuivre, ça pourrait jouer. Mais comme je suis côté bakélite, normalement, ça ne doit pas jouer. Alors, où trouver l'Electronic Box? Alors moi, je l'avais acheté sur un salon, à Clermont, pour ne pas le nommer. Mais je pense qu'on doit trouver ça assez facilement. En plus, c'est un fabricant français qui le fait. Donc voilà, qui est au demeurant très sympathique. Donc je pense que si vous tapez sur internet Electronic Box, vous devriez tomber dessus assez facilement. Et je crois qu'elle était aussi à un moment vendue par le REF. Pas certain, mais je crois. Voilà, donc je mets en route mon. C'est en kit en plus, hein, donc faut se le monter. Hein. Enfin, elle doit exister toute montée, mais. Il y en a pour 2 heures à monter ça, c'est sympa en plus. C'est assez facile. Donc, 147 picofarad, on va voir si c'est bon. Si je ne suis pas trop mauvais. 148. Quand même. Ça, au moins, on maîtrise bien. L'autre, je ne maîtrise pas vraiment. Parce que, j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé... le coefficient diélectrique du papier, on me dit entre 3 et 4, alors pourquoi pas 2, hein, d'autant plus que c'est pas vraiment du papier, c'est des étiquettes, voilà. Ah ben voilà, donc chez Wellman, il doit y en avoir, donc voilà. Et donc voilà les manips du vendredi soir. Qui permettent de s'amuser un petit peu. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.